Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce premier rendez-vous mensuel consacré aux communautés LGBT, c'est Vincent Autain, bien sûr, le président de l'LGP Montpellier Languedoc-Roussillon, qui est à mes côtés. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors, l'LGP Montpellier, c'est une association créée en 1995 et vous militez en faveur de l'égalité des droits et contre toute forme de discrimination. Vous pilotez aussi deux pôles, le pôle senior et le pôle parent, mais ça, on va en reparler dans les autres émissions. On ira voir un peu plus de quoi ça parle. Alors, au programme aujourd'hui, la situation actuelle en matière de droits pour les gays et les trans, parce qu'il ne faut pas les oublier, et je trouve
Absolument.
Qu'on les oublie très souvent.
Tout à fait.
On parlera des positions donc des différents partis politiques de notre chère France, un petit peu de la situation dans le monde. Mais tout d'abord, on va faire un petit retour en arrière en écoutant une avancée majeure en France pour la communauté homosexuelle.
Loin de l'atmosphère passionnée d'il y a 3 semaines, Christine Boutin, le premier orateur de l'opposition, a lancé son réquisitoire contre le PACS. Un discours fleuve, répétitif, de 4 heures devant un hémicycle bien garni. Applaudissements de la droite, quolibets de la gauche, la députée UDF accuse la majorité plurielle d'ouvrir une brèche dans l'institution du mariage et de la famille.
Une fois qu'on sera paxé, si on est un couple hétérosexuel, on ne pourra pas refuser l'adoption. On ne voit pas pourquoi les paxés homosexuels ne pourraient pas, puisqu'ils sont dans le même moule juridique, ne pourraient pas avoir l'adoption. C'est l'enjeu. Qu'est-ce que c'est que ces mascarades, ces contorsions, ces danses du ventre de la gauche?
Alors, première question, toi personnellement, et puis aussi un peu l'LGP en général, comment vous avez vécu cette première, entre guillemets, victoire? Parce que c'était quasi la seule, en fait.
Il y a l'avancée en tant que telle, parce que c'est vraiment le point de satisfaction. Après, la manière, évidemment, c'est quelque chose qu'on a vécu avec énormément de violence. On se souvient d'un certain nombre de manifestations avec des pancartes sur lesquelles il était écrit « les pédés au bûcher ». On se souvient effectivement de Christine Boutin brandissant la Bible dans l'hémicycle alors que nous sommes une république laïque. On se souvient aussi, malgré tout, même si le projet a été porté à bout de bras par la gauche, qu'au moment du vote, les rangs de l'Assemblée étaient relativement déserts, y compris à gauche. Donc évidemment, tout ça s'est fait avec de la douleur. Mais ça s'est fait avec courage et le PACS a fini par émerger. Alors il est évidemment un dispositif extrêmement incomplet aujourd'hui, mais du temps où il a été adopté, ça a été une avancée significative. D'ailleurs, je suis content d'avoir pu lire et découvrir dans la presse il y a quelques semaines de cela que Christine Boutin aujourd'hui est tout à fait favorable au PACS, comme quoi finalement le nombre de années peut rendre quelques personnes un petit peu intelligentes sur des sujets sociétaux tels que l'égalité pour tous.
Il n'y a pas que Christine Boutin qui est favorable au PACS, il y a aussi maintenant Marine Le Pen qui s'y est faite.
Oui.
Elle a commencé à l'admettre, donc gentiment, mais sûrement. Donc on va revenir aujourd'hui donc, en France, en 2011. Donc les homosexuels, entre guillemets, ont droit au PACS. Les transsexuels ont droit au changement d'état civil, mais par contre, ce n'est pas la France qui l'a décidé, il n'y a pas de loi.
Mm-hmm.
C'est la Cour européenne qui avait sanctionné la France en 1992.
Absolument.
Et donc on a des partis politiques, on en a plein. Mm-hmm. On a même des sous-partis dans les partis. Et on voit que maintenant, c'est François Hollande qui est à la tête de la gauche, on peut dire ça comme ça, le futur candidat. Et on a vu énormément de drapeaux gays pendant sa cérémonie d'investiture. Et vous pensez que, enfin, est-ce que tu penses que ça va vraiment faire émerger quelque chose?
Alors, déjà, juste pour terminer sur le PACS, puisque tu parlais de Marine Le Pen, je ne sais pas quelle est la véritable motivation de Marine Le Pen à se faire à l'idée qu'un PACS puisse exister en France, puisque aujourd'hui, nous craignons, à juste titre, que le PACS devienne le premier outil de discrimination pour ne pas permettre justement d'ouvrir l'égalité pour tous, dont le mariage, dont l'adoption, etc. etc. Donc je prends avec beaucoup, beaucoup de précautions les revirements de situation et les volte-face d'un certain nombre de responsables politiques. Maintenant, pour répondre à ta question, quels sont les enjeux? Les enjeux, ils sont majeurs aujourd'hui. Les enjeux, ils sont majeurs parce qu'on ne parle pas de populations qui sont minoritaires. On parle d'un certain nombre de populations. Il y a énormément de gens qui sont dans une situation absolument incroyable. Je parle des couples binationaux, je parle des familles homoparentales. Les dernières études ont fait apparaître qu'il y a environ 200 000 familles homoparentales en France, donc on ne peut pas appeler ça une minorité. Donc à un moment, effectivement, il y a un enjeu, il y a une attente qui est forte. Alors, consister à dire qu'il s'agit pour nous avant tout de faire rattraper le retard accumulé par la France, oui, bien entendu, mais on est avant tout soucieux d'aspirer à vivre dans une société où le principe d'égalité s'applique pour tout le monde. Lorsque nous, on combat sur les questions d'égalité ou sur les questions de discrimination vis-à-vis des LGBT, on le fait pour l'ensemble des populations et pas spécifiquement les LGBT. On sait très bien qu'à un moment, quand une population permet une avancée sociétale majeure, alors à ce moment-là, c'est l'ensemble d'une population, de la population française, qui en est bénéficiaire. Donc c'est vraiment un enjeu capital et on fonde beaucoup d'espoir sur la présidentielle, mais surtout sur la législative à venir.
Donc sur la présidentielle, c'est... Bon, l'EPS l'a carrément adopté, le mariage, dans son projet. Mmh. Les partis de gauche, en général, sont plutôt favorables. Ils jouent sur les mots. Donc, mmh. Une union civile, un mariage, mmh. Il y a un peu ce jeu-là. Mais par contre, à droite, c'est fermé, c'est clos.
Alors, globalement, à gauche, l'ouverture du mariage aux couples de même sexe est, semble-t-il, quelque chose d'acquis du point de vue de leur programme. Parce que nous, on fait bien le distinguo entre promesses électorales et passage à l'acte. Voilà. Donc ça, ce sera un autre débat. Donc à gauche, majoritairement, il n'y a pas débat sur ces questions-là, il y a consensus. On souhaiterait que ça aille beaucoup plus loin, puisque tout à l'heure, tu évoquais les transidentitaires, les questions trans, et là, on sent encore des points de fébrilité. Bref, toujours est-il qu'on sait que les curseurs, il faut les faire bouger petit à petit, doucement mais sûrement, sauf que là, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas bougé, donc il est temps de le faire. Quant à la droite, effectivement, elle se satisfait du PACS. Je me souviens de Nicolas Sarkozy en 2007, lors de sa campagne présidentielle, promettre une évolution du PACS, le rapprochant quasiment à ce qu'ils appellent l'institution du mariage. Mais c'est une promesse qui n'a pas été réalisée. Mais je crois que malheureusement, on a un président qui a beaucoup parlé et qui a eu des actes pas à la hauteur des promesses et des enjeux politiques de notre pays. Maintenant, ce qui me réjouit malgré tout, c'est qu'à droite, ça semble faire débat. J'ai rencontré pas mal de responsables politiques de droite qui sont plutôt favorables à l'égalité de droit. Mais il y a encore effectivement un certain nombre de barrières, des cloisonnements dans leur propre formation politique qui, pour le moment, prennent le pas sur une réalité sociétale. Voilà. Donc on espère que la droite finira par évoluer. Maintenant, on sait que la gauche est très au clair sur cette question-là. Il nous appartiendra, nous, LGP en tout cas, d'expliquer au grand public quelles sont les propositions faites par les différentes formations politiques et à tout un chacun de voter pour tel ou tel candidat parce que vraiment c'est important pour nous. Même si on nous accuse souvent d'être avant tout des militants de gauche, nous ne sommes pas des militants de gauche, nous sommes des militants de l'égalité. Et il est entendu que si cette égalité est portée par la gauche, alors nous on informe tout simplement les citoyens de qui la porte et qui la refuse. Et chacun mettra le bulletin dans l'urne qui lui appartient.
Mais il y a quand même entre guillemets une preuve que être gay par exemple, c'est pas forcément être de gauche, puisque même à droite, il y a un mouvement affilié à l'UMP qui s'appelle Gaylib et qui lui justement essaye de faire bouger la droite dans ses propres rangs. Bon, c'est un peu difficile, mais c'est quand même plutôt bon signe. Il y a quand même une certaine personne à droite que j'aimerais te faire écouter.
Il y a des aberrations qu'il faut combattre, évidemment. Même si un certain nombre de pays un peu faiblards les ont déjà mises en œuvre. Vous savez, ça n'a rien à voir avec la mode, ça. C'est structurel. Qu'est-ce qui caractérise l'homme? C'est le fait de dire, moi, je ne pratique pas l'inceste. Je me marie avec une femme d'un autre groupe. C'est du Lévi-Strauss pur texte, ça. Comme diraient les Chinois, il y a le yin, il y a le yang. Il y a l'homme et la femme. Le reste, c'est anecdotique. On ne bâtit pas une pyramide sur sa pointe.
C'était Christian Vanesse, le député UMP du Nord.
Oui.
Dans une de ses fameuses sorties. Bon, la plupart de ses sorties, on les a retrouvées par écrit. C'est des journalistes qui les ont reprises. Là, il a carrément parlé au micro, face caméra.
Mais je pense que Christian Van Est souffre d'un énorme complexe d'initiatives et de projets politiques et n'arrive à exister qu'au travers de publicités malheureuses en s'en prenant à la population LGBT. C'est triste finalement qu'un député élu au suffrage universel en soit réduit à avoir un tel fonds de commerce pour pouvoir exister médiatiquement. Je préférais que Christian Van Est soit porteur de projets, qu'on soit pour ou contre un certain nombre de projets, mais en tout cas porteur de projets, qu'il passe à l'action, qu'il soit l'homme de terrain qu'il prétend être. Pour le moment, la seule chose qu'il nous montre, c'est que, hormis être un abonné à la diarrhée verbale, je crains malheureusement que Christian Van Est souffre avant tout de constipation cérébrale.
Donc c'est pas mal pour lui, parce qu'en fait, ce son que je t'ai pris date du 14 juin. Et c'est à ce moment-là que le député PS Patrick Bloch avait fait sa proposition pour en faveur du mariage homosexuel. Donc le texte a été rejeté par 293 voix contre 222, donc ce qui montre quand même qu'il y a vraiment un mouvement très positif en la matière. Il y a eu 16 abstentions. Et donc, Van Est, il est député du Nord, et donc il y a une de ses voisines du Nord que j'aimerais aussi te faire écouter.
Les règles de notre société, c'est que le mariage s'effectue entre un homme et une femme. Je ne pense pas qu'il soit positif de changer cette règle. Parce qu'alors, si l'on part de ce principe, on peut aller à la limite très loin dans la modification de notre civilisation. On peut aussi décider que, après tout, pourquoi n'a-t-on le droit que de se marier avec un homme ? Pourquoi pas avec plusieurs ?
Personne ne le réclame, ça.
Et la mise en place de la... Mais vous aurez des gens qui le réclameront.
Il existe des couples homosexuels.
Pourquoi pas l'autorisation de la polygamie ?
Voilà, donc une belle phrase de... C'est du Marine dans le texte, comme il disait à propos de Lévi-Strauss. Donc là, c'est du Marine dans le texte.
Oh, à la limite, il n'y a pas grand-chose à dire. On devrait conseiller à Marine et puis à Christian de se marier et de vivre de grandes noces.
Oui, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait faire de beaux enfants.
Oui, absolument.
Alors maintenant, on va parler de personnes dont on ne parle très peu. Et moi, ça me tient à cœur. Donc, on va parler des transidentités, puisque vous m'avez dit que vous me dites, à l'LGP, on ne dit pas forcément transsexuel, c'est plutôt les transidentités.
Absolument.
Donc, ce que j'ai appris personnellement, c'est que dès 82, il y a Henri Cavaillé, un sénateur gauche démocratique du Lot-et-Garonne, qui a déposé une proposition de loi tendant à autoriser les traitements chirurgicaux pour les anormalités de la transsexualité et à reconnaître le changement d'état civil. Donc, ça date de 82. Et pourtant, il n'y a toujours pas de loi, en fait, officiellement.
Disons que la question des transidentités en France est une question assez complexe. Il faut bien reconnaître qu'il y a un certain nombre de mouvements et d'associations qui sont extrêmement mobilisés sur ces questions-là et qui, elles-mêmes, ont un certain nombre de points de convergence et un certain nombre de points de divergence. C'est toute la richesse de ce débat sur ces questions-là. Ça fait émerger un certain nombre d'initiatives, un certain nombre de promesses, un certain nombre de projets. Voilà. Donc ça, c'est le constat, et c'est bien d'avoir cette émulation. Nous, aujourd'hui, au sein de la LGP, la question des transidentités est une question qui est majeure dans notre combat. Nous ne sommes pas des experts de la question, donc nous nous appuyons sur des associations qui ont véritablement cette spécificité. Pour autant, nous, on a mission aussi de porter un certain nombre de revendications. On a la chance d'être avec un outil de travail exceptionnel qu'est la LGP et d'être un porte-voix majeur aussi sur les questions LGBT. Donc il est évident que l'enjeu de la présidentielle et l'enjeu des législatives à suivre est capital sur ces questions-là. Capital qu'il s'agisse de l'état civil, capital qu'il s'agisse du changement de sexe, capital lorsqu'il s'agit de pouvoir laisser les personnes choisir leur propre parcours et leur propre médecin. Voilà, il y a toutes ces questions-là, parce que là aussi on a affaire à des personnes qui sont en souffrance face à un système. C'est-à-dire qu'elles sont dans une position où c'est pas elles qui... elles n'ont pas juste volonté de changer de sexe pour le plaisir de changer de sexe. La plupart de ces personnes-là sont nées dans le mauvais corps. C'est la nature qui s'est trompée. C'est pas ces personnes-là. Alors il s'agit pas de les prendre en pitié, mais il s'agit surtout de les prendre en compte et de ne jamais les oublier dans les combats qui sont les nôtres. Et c'est pour ça que nous l'avons dit lors de la marche des diversités Gay Pride, et nous le répéterons encore à l'occasion de ces enjeux électoraux, il n'est pas question pour nous de laisser passer sous silence ces questions-là, aussi bien à droite qu'à gauche. Alors évidemment, notre poids sera beaucoup plus fort à gauche, puisque la gauche a fait un certain nombre d'avancées, a fait un certain nombre de promesses. Nous souhaiterions que la gauche aille beaucoup plus loin. Quant à la droite, nous souhaiterions qu'elle rattrape son retard quant à la question de l'égalité, mais quant à la question des transidentités. Voilà, donc il y a des enjeux qui sont absolument capitaux là-dessus. Nous, on va, de toute façon, très rapidement, dès le mois de février-mars, organiser une grande rencontre politique en invitant les représentants des différents candidats pour s'exprimer sur un certain nombre de sujets, dont le sujet des transidentités. Et nous invitons les personnes concernées sur cette question à nous rejoindre, parce qu'il n'y a pas mieux que l'échange direct. Donc il y aura un débat avant la présidentielle et il y aura un débat avant les législatives. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même une chose, c'est qu'en France, la loi n'est pas faite par le président de la République. Elle est faite par l'Assemblée nationale. Donc il faudra se mobiliser pour la présidentielle, mais il faudra se mobiliser essentiellement aussi et surtout sur les législatives qui auront lieu en juin. Et ça tombe très bien puisque la marche des diversités Gay Pride aura lieu le 2 juin, à savoir une semaine avant le premier tour des législatives. Et je voudrais dire quand même aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, parce que nous savons très bien que ça existe dans notre société, il y a énormément d'abstentionnisme, aussi bien chez les LGBT que dans toute autre population. Les abstentions sont souvent liées à une désillusion, à un certain nombre de promesses entendues et promesses non concrétisées, ou la sensation de voir que la société finalement n'évolue pas telle qu'on peut nous le garantir au moment des belles campagnes. C'est vrai. C'est vrai, je suis le premier à constater qu'il y a des promesses qui ne sont pas concrétisées. Je parlais de Sarkozy tout à l'heure. Pour autant, je pense qu'il est préférable de se mobiliser et d'aller voter pour choisir plutôt que de rester chez soi et de se voir imposer une société qu'on ne veut pas. Voilà, la société sera probablement imparfaite, quel que soit celui qui sortira vainqueur de ces futurs scrutins. Mais pour autant, on aura fait le choix à un moment ou à un autre de se dire qu'il y a des axes majeurs sur un certain nombre de programmes et il vaut mieux les voter, il vaut mieux les soutenir plutôt que de rester chez soi. Donc vraiment, en tout cas au moins sur la question qui nous concerne aujourd'hui, sur la question de l'égalité, sur la question des transidentités, il faut surtout, surtout ne pas oublier d'aller voter, de s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre de cette année. C'est capital, c'est majeur. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de louper le coche, aussi bien pour nos couples, aussi bien pour les gens qui s'aiment, aussi bien pour les personnes qui sont en souffrance de papier, pour les transidentitaires, pour les familles et pour les gamins de famille homoparentaux.
Et pour justement, pour pousser, est-ce que vous allez pousser les gens à voter, justement, les populations LGBT, ceux qui vont venir vous voir à la LGP, est-ce qu'il va y avoir un espèce de mouvement, ne serait-ce que sur Internet, pour aller les pousser à aller voter?
Alors, effectivement, les populations LGBT, heureusement, sont souvent des populations qui se mobilisent énormément au moment des scrutins électoraux.
Ils ont pris l'habitude.
Ils ont pris cette habitude malgré un certain nombre de désillusions. Donc, c'est bien qu'ils s'obstinent et on va continuer à s'obstiner. Aujourd'hui, nous, on va essayer de continuer à mobiliser plus largement. Donc effectivement, dans les 15 jours qui vont suivre, nous allons lancer une grande campagne de mobilisation à l'inscription sur les listes électorales. Nous sommes conscients aujourd'hui que les populations LGBT suffiraient à faire basculer un scrutin. Alors on peut parler du nombre, du pourcentage que l'on représente. Effectivement, il n'y a pas d'études en France. Voilà, on constate selon les pays que la population LGBT pèse pour 5 à 10% selon les pays.
C'est pour ça, c'est une question qu'on essaie de savoir, en fait, on ne sait pas.
Voilà, mais il n'y a pas d'études parce que pour le moment, ce n'est pas légal en France. Mais que l'on représente 5%, que l'on représente 10% ou même que l'on représente 1%, on sait très bien qu'un petit pourcent suffit à changer le visage de celles ou ceux qui vont porter des projets qui nous sont chers. Donc qu'on soit 1%, 5% ou 10%, nous pouvons et nous avons le devoir de peser sur ces élections. Je ne veux pas être un moralisateur, je veux juste faire comprendre aux gens qui nous écoutent que c'est capital. On a enfin la chance aujourd'hui, après de trop nombreuses années, de pouvoir faire basculer notre pays vers la voie de l'égalité. Liberté, égalité, fraternité. Nous ne l'avons pas inventé, nous voulons le concrétiser. Et là, aujourd'hui, pour le concrétiser, il va falloir se mobiliser. Et nous sommes conscients, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous pèserons sur cette élection. Et il faut que les candidats soient conscients que nous jouerons notre rôle à fond. Nous jouerons notre carte, nous resterons mobilisés, attentifs, réactifs. Il ne faudra pas croire un seul instant que nos voix seront acquises par la simple promesse qui nous serait faite. La promesse, une fois qu'elle sera faite, si la personne se retrouve aux affaires, il va falloir qu'elle la concrétise. Parce que notre mobilisation, elle aura lieu avant les échéances électorales, pendant les échéances électorales, mais surtout après les échéances électorales. Et il ne faut pas croire que nous allons signer un chèque en blanc, quelle que soit la formation politique.
Donc le candidat, j'espère qu'il aura entendu parce qu'il va être attendu au tournant.
Clairement.
Parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu des propositions, on en a entendu parler très souvent, donc de l'idée, en général c'est du mariage, puisqu'on voit que les transidentités, c'est comme si ça faisait peur. D'ailleurs c'est qu'en 2009, c'est depuis 2009 je crois que c'est plus considéré comme une maladie mentale. Et donc on sent que ça fait peur et donc on a l'impression quand même que les transidentités se cachent derrière justement la LGBT, toutes ces associations-là, alors qu'elles pourraient elles aussi faire peser quelque part parce qu'on ne connaît pas le nombre des gens, on ne connaît pas le nombre d'enfants qui sont dans des familles homoparentales. C'est tout ce genre de choses qu'on ne sait pas.
Mais c'est le mouvement LGBT est un mouvement qui a su s'unir malgré, encore une fois, parce que dans toutes les populations il y a des points de divergence, on est là pour le débat et tant mieux. Et on a su s'unir. Alors effectivement, moi j'étais pas militant à l'époque parce que j'étais jeune, même si aujourd'hui j'ai pas loin de 40 ans, mais effectivement le mariage a été le point d'accès, le point catalyseur, le point mobilisateur, au risque de faire penser qu'il n'existait que ça.
Voilà, c'est l'impression que ça donne, quoi. Voilà, le seul objectif, c'est le mariage, mais il n'y a pas seulement ça, il y a l'adoption aussi.
Absolument, et c'est bien pour ça que nous rappelons depuis un certain nombre d'années et de mois, et que nous allons continuer à le faire, que la question des LGBT ne se résoudra pas uniquement sur la question du mariage. Voilà. Ça, c'est quelque chose que l'on dit depuis déjà un certain nombre d'années et un certain nombre de mois. Et c'est quelque chose sur lequel on va insister. Nous avons mis en garde l'ensemble des formations politiques quant au danger qu'elles auraient à réduire nos revendications à la seule question du mariage et de l'adoption. Ça n'est pas uniquement ces aspects-là qui sont les seuls en matière de revendication des LGBT. Ils sont capitaux, certes, mais il y a d'autres enjeux qui le sont tout autant.
Il y a tout un tas de discriminations dont moi je vais parler justement au cours des émissions, au travail, par rapport aux seniors aussi, dont on ne parle pas non plus parce qu'on pense que ça n'existe pas. Papi et mamie ne peuvent pas être gays, mais si.
Absolument, absolument. Mais tout ça, ce sont des enjeux capitaux dans la construction de notre schéma social et sur lesquels on bosse. Tout à l'heure, tu parlais du pôle senior. Ce n'est pas quelque chose qu'on a sorti de notre casquette. C'est simplement parce que voilà, les gens qui bossent à la LGP ou qui gravitent autour de la LGP sont des personnes de terrain. Et qui dit personnes de terrain, dit que ce sont des personnes qui écoutent avant tout. Voilà, on n'est pas là à agir pour agir, on est là avant tout pour essayer d'écouter, de comprendre et ensuite de construire du projet et de la proposition. Tu parles des seniors, tu parles de monde du travail, oui, bien sûr, il y a des enjeux qui sont capitaux. La question du vieillissement dans notre société lorsqu'on est un couple homosexuel, eh ben, c'est une question qui est fondamentale. Les maisons de retraite telles qu'elles existent aujourd'hui sont des modèles qui n'auront pas le choix que d'évoluer. Parce qu'effectivement, quand on est deux hommes ou deux femmes en maison de retraite, ben ça reste encore extrêmement compliqué. Et j'ai la chance d'avoir une amie très proche qui est dirigeante d'une structure, d'une maison de retraite, pardon. Et malgré toute sa tolérance et malgré son ouverture d'esprit, ben elle se trouve confrontée à sa propre hiérarchie, ou même au-delà de sa hiérarchie, aux personnes et au blocage des gens qu'elle dirige. Donc là, il y a un énorme boulot à faire aussi sur ces questions-là. La volonté va devoir passer par l'action militante, c'est vrai, par la formation des personnels, et qui dit formation des personnels dit aussi volonté politique. Donc là aussi, ce sera un point capital de nos revendications.
Et on va revenir un petit peu sur le mariage et les unions civiles avec un exemple de ce qui se fait dans le monde et que dont nous, on n'a pas.
Au cours de cette journée historique pour le Mexique, le 11 mars 2010, 5 couples se sont ainsi dit oui à Mexico. Cela n'est possible que dans la capitale, où le maire Marcelo Ebrard est la grande figure de la gauche mexicaine. Il était d'ailleurs le témoin de ces mariages hyper médiatisés, dans un pays où les valeurs catholiques traditionnelles sont encore très fortes.
Maintenant, nous allons continuer de nous battre pour nos droits au-delà du mariage.
Prochain combat à mener pour ces nouvelles jeunes mariées, obtenir le droit d'adopter un enfant.
Donc là, c'était en mars 2011 et c'est au Mexique. Oui. Donc c'est dans une ville, hein, c'est à Mexico seulement. Oui. Donc c'est le maire qui a marié des homosexuels, des lesbiennes et des gays. Et donc c'est le Mexique, pays très catholique. On a quand même l'impression d'être très, 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 très en retard.
Oui, bah, tu parles du Mexique, on pourrait parler de l'Espagne, on pourrait parler du Portugal et tant d'autres pays encore. Oui, on est en retard. Ça, c'est un constat que l'on fait depuis X années. Voilà. On a volonté de le rattraper enfin, une bonne fois pour toutes. Effectivement, il y a des pays très catholiques où les responsables politiques ont fait preuve de courage. De courage parce que le principe d'égalité leur paraissait fondamental. Comme nous sommes tout à fait libres, justement, de choisir notre religion. Nous devrions pouvoir être libres de choisir de nous marier ou de pas nous marier. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous de dire on est pour le mariage en tant que tel. Y a des gens dans les LGBT qui ne veulent pas se marier. Mais il s'agit pour nous, notre combat à nous, c'est de dire que les personnes doivent pouvoir avoir le choix d'organiser leur vie de couple telle qu'elles l'entendent. Et pour que cette organisation soit possible dans un souci d'égalité, il faut qu'elles puissent avoir accès au mariage laïque, puisque souvent on essaie de faire ce mauvais mélange entre mariage laïque et mariage religieux. Donc elles doivent pouvoir avoir le choix entre mariage, pax, union libre ou célibat lorsqu'elles sont célibat. Voilà, c'est disposer de la panelle de droits qui existent en France et qui sont malheureusement hiérarchisés en fonction des populations. Maintenant, il y a des pays qui ont eu ce courage-là. En France aujourd'hui, faire passer le mariage, c'est plus une question de courage. Le courage politique d'avoir une action aussi forte repose sur des choses telles que Simone Veil, effectivement, telles que l'abolition de la peine de mort. Mais aujourd'hui, le mariage en France, le mariage pour les couples de même sexe, c'est plus une question de courage. 63% des Français sont favorables. C'est une question juste d'entendre ce que les populations ont à dire, juste d'entendre que les populations aspire à une société moderne et de la concrétiser. Suffit d'être dans un pays conservateur alors que nous sommes dans un pays d'égalité et nous sommes le pays des droits de l'homme.
Donc sur ces belles paroles, merci beaucoup Vincent.
Merci de votre invitation.
Eh bien, on se reverra sûrement dans les mois qui viennent pour le rendez-vous, maintenant mensuel, et on se quitte en musique. Merci Bruno à la technique.